France Inter. Mathilde Munoz.
Il est 6h19, l'homosexualité est une maladie. Il y a encore des gens qui pensent ça aujourd'hui et qui estiment qu'il faut donc soigner les personnes gays en leur faisant subir des thérapies de conversion afin de changer leur orientation sexuelle. Bonjour Laurence Van Sonnebrock.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de l'Allier. Vous avez mené une mission parlementaire sur le sujet et vous venez de déposer une proposition de loi pour faire interdire ces pratiques. D'abord, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer exactement de quoi on parle. Je ne suis pas sûre que ce soit très connu. Qu'est-ce qu'on entend par thérapie de conversion? Est-ce qu'il en existe plusieurs formes?
Alors oui, exactement. Alors les thérapies de conversion, ce sont des pratiques qui visent donc à vouloir modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Alors effectivement, on trouve donc des thérapies de conversion religieuses. Donc là, ça concerne en fait les trois religions monothéistes. Et il y a également des thérapies donc médicales. On en a pu auditionner donc des jeunes victimes qui racontaient avoir été, avoir subi des choses un peu étranges de la part du corps médical dans une clinique privée du sud de la France. Et puis il y a aussi ce qu'on a finalement appelé les thérapies sociétales, c'est-à-dire celles qui obligent certains parents à envoyer justement leurs enfants vers ces pseudothérapeutes ou vers le prêtre, l'imam, justement donc pour pratiquer ce genre de thérapie. Alors on s'est rapidement rendu compte qu'en fait c'est jeunes, alors souvent des jeunes hommes et aussi donc des lesbiennes, étaient issus de familles pratiquantes, très croyantes. Hein. Donc voilà la raison pour laquelle les parents se sentaient obligés donc d'emmener leurs enfants vers ces thérapies.
Et j'aimerais qu'on revienne sur ces trois différentes thérapies que vous avez identifiées pour que vous nous expliquiez comment ça se passe exactement, ce que vivent les gens qui subissent ces thérapies. Comment se passe une séance par exemple lors d'une thérapie religieuse? C'est quoi? C'est comme un des exorcismes?
Alors, ça peut être de toutes sortes, en fait. Hein. Ça peut être simplement des prêches répétées de façon intensive ou effectivement des séances d'exorcisme, comme vous le disiez. On a pu consulter des images un petit peu effroyables de choses qui se passent là, pour le coup, dans le nord de la France. C'est vraiment des techniques moyenâgeuses. Hein. On a vraiment l'impression d'un bond en arrière dans l'histoire. Et je sais que ça a été très surprenant, puisque même moi, qui avais pourtant connaissance de l'historique des thérapies de conversion aux États-Unis par exemple, j'ai été sidérée d'apprendre et de constater et de l'ampleur en fait de ce genre de pratiques sur le territoire national. C'était vraiment une surprise effroyable.
Et les thérapies médicales, donc vous nous parliez de cette clinique, qu'est-ce qu'on fait subir aux personnes qui viennent là-bas?
Alors là, je pense que c'est la chose en fait qui m'a. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment marqué, et pourtant j'ai un passé policière qui m'a normalement préparé à plein de choses. Mais il est arrivé donc. Alors évidemment, il ne faut pas faire une généralité. Hein. Ce que je raconte, c'est ce qu'on nous a rapporté dans une ou deux cliniques du sud de la France, où en fait, on pratique les injonctions d'hormones en espérant que ça virilise en fait le jeune homosexuel qui est reçu, pire, ensuite, certains jeunes ont été internés et ont subi donc ce qu'on appelle la sismothérapie, c'est-à-dire les électrochocs. Alors bon, là, c'est effectivement complètement, c'est le cas de le dire, délirant, puisque c'est quand même des techniques qu'on a utilisées les dernières fois, normalement, en 39-45, pour faire parler les résistants. Donc on est dans quelque chose de complètement extraordinaire.
Ça se fait dans une clinique qui a pignon sur rue ou qui est cachée? Comment on justifie ce genre de pratique? C'est fait par des vrais médecins?
Alors, c'est fait par des vrais médecins, des vrais psychiatres, et le jeune qui nous a raconté un petit peu sa mauvaise aventure nous dit qu'en fait, parce qu'en fait, il avait un long parcours personnel un peu compliqué, justement dû à son homosexualité, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, et qu'en fait, il est rentré dans cette clinique, j'aurais pas le temps de tout vous raconter, mais qu'en fait, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'entretien avec le psychiatre, il était déjà placé sous perfusion de Valium, et que régulièrement on venait rajouter du traitement anxiolytique pour endormir son esprit, j'ai envie de vous dire. Et donc il nous raconte avoir subi ces cette sismothérapie, et les séquelles donc qu'il en a gardées, malheureusement, c'est des pertes de mémoire. Par exemple, il a perdu toute la mémoire de son enfance. Alors il racontait, enfin, complètement désespéré, qu'il avait une jeune sœur avec qui il croyait avoir eu de bons souvenirs quand il était jeune, mais en fait il n'en a plus aucune trace. Donc voilà, ce sont le genre de séquelles que peut présenter ce genre de personne. Alors, sans parler des risques de dépression, évidemment, et puis les gens qui nous ont parlé avoir eu envie de se suicider, parce que arriver au bout du bout n'en pouvait plus, en fait.
Oui, et ce qui est traumatisant en plus, c'est que c'est souvent les parents qui poussent à faire ça, les personnes en qui on a confiance.
Ben, mais qui eux aussi, enfin, croient, enfin, alors, c'est ça qui est un peu curieux, c'est que malheureusement, les parents, parfois, alors, ce que je veux dire peut paraître énorme, mais pour le bien-être de leur enfant, envisage ce genre de thérapie comme un secours, en fait, parce que ils sont tellement croyants et sont tellement persuadés que la parole de Dieu et le chemin de Dieu va sauver leur enfant, qu'ils sont persuadés que d'emmener leurs enfants suivre ces stages de vacances, ces camps de vacances, va les sauver et les remettre sur le chemin de Dieu. Donc, d'où l'intérêt de cette proposition de loi.
On va y venir à cette proposition de loi. Je voulais juste revenir une dernière question avant de détailler votre proposition de loi sur l'ampleur de ce phénomène en France. On parle quoi de quelques personnes, quelques dizaines de personnes, ou c'est vraiment plus important? Aux États-Unis, il y en a des milliers et des milliers. Chez nous, c'est ça à quelle ampleur?
Alors justement, l'ampleur commence à prendre de l'importance, puisque les associations qui pratiquent ce genre de stage, entre guillemets, bien sûr, s'adossent justement sur ce qui était sur les associations qui pratiquent depuis de maintenant de nombreuses années, hein, 50 ou 60 ans aux États-Unis. Je pense notamment à Courage Autant en Vie. Donc ces associations regroupent beaucoup d'hétérosexuels qui ont d'autres problèmes de virilité, mais aussi donc de jeunes homosexuels qu'il faut à toute fin convertir, maintenant ils n'utilisent plus le terme de guérir, hein, puisqu'il y a eu une très mauvaise communication au début des années 2000, et finalement ils ont changé leur communication. Donc on ne parle plus de guérison, mais de stage de virilité, enfin, d'accompagnement à la masculinité.
Et donc on a une idée du nombre de personnes.
En termes de nombre, voilà. Donc en fait, nous, en trois mois de mission, on a auditionné une soixantaine de personnes. Dans ces soixantaines de personnes, on a dû recueillir une vingtaine de témoignages de victimes qui elles-mêmes nous rapportaient à chaque fois connaître un certain nombre de victimes. Et au total, donc sur cette mission de 3 mois, on a pu comprendre qu'en fait il y avait au moins sur cette cohorte la possibilité de connaître une centaine de cas. Donc on imagine que si on multiplie, enfin si on avait plus de temps en fait pour entendre et auditionner donc toutes ces victimes, on arriverait à des chiffres bien bien plus importants. Il faut être très prudent avec ces stages.
Bien sûr.
Et voilà.
Le temps file très vite, Laurence Van Sonnebrock. Hein, juste pour en quelques secondes, on en a vraiment plus de temps pour votre proposition de loi. Il faut en passer par là, par un nouveau texte. Le droit français actuel ne suffit pas aujourd'hui.
Alors il y a quelques infractions qui pourraient s'approcher en fait de ces thérapies. Le problème, c'est que quand vous allez en commissariat ou gendarmerie, il n'y a pas d'infraction spécifique pour les thérapies de conversion. Les victimes se sentent lésées, en fait flouées de leurs droits à déposer plainte contre ces thérapies, et finalement on se retrouve avec un problème statistique qui les laisse entendre qu'en fait finalement que c'est un sujet qui n'existe pas vu qu'il n'y a pas de chiffres. Donc oui, c'est important, non seulement entre guillemets, si je peux me permettre, d'un point de vue symbolique pour les victimes, parce qu'elles ont besoin d'être reconnu, c'est absolument tout ce qu'elles nous ont toutes dit. Et puis aussi, puisque d'un point de vue technique, il faut pouvoir dans le code pénal insérer donc cette infraction pour permettre justement aux forces de l'ordre, mais aussi aux victimes, de pouvoir voilà se retrouver et donc d'être entendues.
Merci beaucoup Laurence Van Sonnebrock, députée La République en Marche de l'Allier. Vous étiez notre invitée ce matin.